Chapitre 7 Entre frères d'armes. Lorsqu'Alban de Monthermé parut, M. Avrier fut immédiatement frappé par le trouble qui se lisait sur la physionomie du jeune officier. « Cher monsieur, fit celui-ci avec une volubilité fiévreuse, permettez-moi tout d'abord de m'excuser si je me présente chez vous avant l'heure du déjeuner. Mais je viens de recevoir une lettre qui, bien qu'anonyme, m'a littéralement bouleversé. J'ose espérer qu'elle n'est qu'un tissu d'odieux mensonges, car si elle disait vrai, ce serait vraiment par trop épouvantable. Quoi qu'il en soit, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de vous la communiquer. Vous avez très bien fait, mon cher ami, approuva l'industriel, qui s'embarra fiévreusement du papier que lui tendait son futur gendre. Voici ce qu'il lut. « Mon cher capitaine, j'ai appris, comme tout le monde d'ailleurs, puisque la nouvelle en a été officiellement donnée par toute la presse parisienne, que vous alliez épouser mademoiselle Martine Avrier. J'ai été sur le point de vous écrire pour vous déconseiller vivement ce mariage, autant par sympathie pour vous que pour d'autres raisons personnelles, qu'il m'est d'ailleurs impossible pour l'instant, du moins, de vous expliquer. Sachez seulement que mademoiselle Martine n'est pas du tout la jeune fille douce et charmante que vous pensez. C'est une intrigante, une jalouse capable de très mauvaises actions, et peut-être même pire. J'en sais quelque chose, puisqu'elle a failli briser ma vie par ses intrigues méchantes et des calomnies perfides. Je me suis promis de tirer d'elle une vengeance éclatante. Alors vous recevrez ces lignes, ce sera fait. Sachez seulement qu'au lieu de la jeune fille pure et chaste que vous comptiez épouser, vous vous trouvez en face d'une fiancée dont le plus précieux apanage aura cessé d'être une réalité. Si vous désirez de plus amples détails, adressez-vous à son papa, à sa maman et à elle-même. J'ose espérer qu'ils auront la franchise de vous dire toute la vérité. Vous jugerez sans doute, mon cher capitaine, que le châtiment est disproportionné à la faute. Il n'en est rien. Vous saurez tout un jour et vous jugerez que, loin d'être un coupable, je suis un justicier. Je vous envoie mes salutations les plus distinguées, signé Vindex. Incapable de maîtriser l'émotion qui, de nouveau, s'était emparée de lui, l'industriel s'écriait « Oh, monsieur de Monthermé, je vous dois toute la vérité. Vous en cachez la moindre parcelle après cette lettre que vous venez de recevoir. Serait de ma part un acte de déloyauté auquel ma conscience m'interdit. Je commence par vous dire, ou plutôt par vous jurer sur l'honneur, que ma fille n'a été l'objet d'aucun de ces outrages irréparables qui compte parmi les odieux forfaits. Elle est toujours digne d'être votre femme. Monsieur, reprenait le capitaine de plus en plus ému, oh, je ne vous fais pas un seul instant l'injure de mettre en doute votre parole. Mais ce que vous me dites me donne à penser qu'il y avait du vrai dans cette lettre. Beaucoup de vrai, hélas, répliquait Florent. Mais il faut d'abord que je vous mette au courant de certains événements qui ont précédé vos fiançailles. » L'industriel fit alors au capitaine aviateur le récit exact et détaillé de l'explication qu'il avait eue avec Jacques Moret à la suite des lettres anonymes qu'ils avaient reçues l'un et l'autre et du prétendu coup de téléphone que, soi-disant, Martine aurait adressé à Moret. Il lui communiqua même les lettres en question. Effaré, Alban de Monthermé, après en avoir pris connaissance, conclut avec toutes les apparences de la plus saine logique. Mais il n'y a pas à douter un seul instant. Vous êtes, ainsi que Jacques Moret, l'objet d'une campagne abominable, et qui ne peut être inspirée que par des gens qui ne vous pardonnent pas votre commun succès. Oui, j'ai vu cette impression, répliqua l'industriel. Mais j'en suis revenu. Et maintenant, je vais vous dire tout ce qui s'est passé cette nuit dans cette maison. Un misérable, vêtu de noir, coiffé d'un casque d'aviateur, masqué, s'est introduit dans la chambre de ma fille et, après l'avoir menacée et terrorisée de son revolver, l'a jetée sur le lit, bâillonnée, ligotée, tout en lui disant: Je viens me venger. Ma fille, héroïquement, au péril de sa vie, a lutté, s'est défendue, s'est débattue. Et son agresseur l'a frappée d'un coup de crosse de revolver à la tempe, qui a provoqué une blessure avec hémorragie. Et à ce moment, son masque est tombé. Et savez-vous qui Martine a reconnu? Jacques Moret. Oh, lui, c'est impossible! S'exclamait de Monternay avec un accent de spontanéité absolue. Ben, c'est ce que je me suis dit tout d'abord, déclarait M. Avrillier. J'ai pensé, comme vous le pensez vous-même, que ma fille avait été l'objet d'un phénomène d'autosuggestion. Et juste persisté dans cette opinion, si quelques heures, un an après, je n'avais trouvé dans le studio de ma fille un bracelet-montre appartenant à Jacques Morel. Et si 1 demi-heure plus tard, mon chauffeur ne m'avait pas apporté une échelle de corde qu'il avait trouvée au pied du mur, échelle que j'avais donnée moi-même à Jacques Moret au moment de son départ pour son dernier raid. Mais cela me semble écrasant, répliqua le capitaine. Mais à quel mobile un homme tel que Jacques, jusqu'alors irréprochable, a-t-il pu obéir pour commettre un crime aussi abominable? Bien, il l'a dit lui-même à ma fille, il a voulu se venger. Et se venger de quoi? Rappelez-vous les termes des lettres que je viens de vous donner à lire. Là, sans doute la vérité. Moret était amoureux de ma femme. À tort ou raison, il aura cru voir en ma fille une adversaire, un obstacle, et il aura perdu la tête. Ainsi qu'il l'a dit, il aura voulu se venger. Monternay répliquait: Je reconnais, cher monsieur, qu'il existe contre Moret plus que des apparences, des preuves. Mais cependant, je ne me sens pas contre lui la colère, la haine, la révolte que devrait m'inspirer sa conduite. Pourquoi? Est-ce en quelque sorte une prescience qu'il est innocent? Je serais tenté de le croire. Cependant, plus je réfléchis à ce que vous venez de me révéler, plus je me rends compte que tout l'accuse, et plus aussi je me dis que, pour l'honneur de Martine, il ne faut pas qu'un scandale éclate. Ah ben, nous sommes d'accord, notait l'industriel. Et d'une voix énergique, Monthermé affirmait: Mais il faut pourtant que ce crime soit châtié. Certes, il m'est profondément douloureux d'être obligé de m'attaquer à un camarade tel que Jacques Moret, mais désormais, entre nous deux, il ne peut plus exister une fraternité d'armes. Il ne doit plus y avoir qu'un coupable et qu'un justicier. Ce justicier, je vous demande de l'être. Soit, inquiétait M. Avrier, mais que comptez-vous faire? Ben, je vais devoir aller trouver Moret. Maintenant qu'il est mon égal en grade, nous pouvons avoir tous les deux une explication d'homme à homme, sans que nous risquions d'aller à l'encontre des règlements militaires. Si vous m'y autorisez, je le mettrai au courant de l'accusation qui pèse sur lui, en même temps que toutes les charges accumulées sur sa tête. Et selon ce qu'il me répondra, je verrai ce que j'ai à faire. En tout cas, je ne prendrai aucune décision sans vous avoir demandé votre avis. Dans ces conditions, déclarait Florent, je ne puis qu'approuver entièrement votre décision. Je crois que le mieux est d'aller très vite. Oui, c'est absolument mon avis. Le capitaine Moret, déclarait le père de Martine, doit être aujourd'hui pour la journée à mon usine de Sartrouville, où j'assiste à la révision de son moteur. Bien, j'ai mon auto devant votre porte, reprenait Monthermé. Je vais immédiatement filer là-bas. Permettez-moi auparavant de vous conseiller le calme et la prudence. Soyez tranquille, cher monsieur, j'en aurai autant qu'il en faudra. Tous deux échangèrent une cordiale poignée de main. Alban allait se retirer lorsque la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître Madame Avrier, qui, les très convulsés, appelait « Florent, viens vite, Martine est au plus mal !» Apercevant son futur gendre, Antoinette scanda d'un ton désespéré « Venez vite aussi, car j'ai peur, j'ai très peur !» L'industriel et l'officier se précipitèrent sur les traces de Madame Avrier, qui déjà remontait 4 à 4 l'escalier conduisant à l'appartement de la jeune fille. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la chambre de Martine, ils virent celle-ci étendue dans son lit, immobile, les yeux fermés d'une pâleur marmoréenne. Monsieur Avrier et le capitaine de Montfermeil eurent la même atroce pensée. Oh, elle est morte! Mais aussitôt ils se rassurèrent, car ils venaient de s'apercevoir que, sous la couverture, la poitrine de la malheureuse soulevait en saccades irrégulières. « Mais que s'est-il passé ?» interrogeait Florent au comble de l'angoisse. « Je vais te le dire, » répliquait sa femme d'une voix haletante. Elle allait entamer son récit lorsque le valet de chambre annonça « Monsieur le docteur Ramet !»« Faites entrer !» ordonna immédiatement Madame Avrier. Le médecin parut. C'était un homme d'une 50aine d'années, à l'allure distinguée et sympathique, qui n'avait rien de l'austérité solennelle des pontifes d'autrefois, ni de l'ironique désinvolture de ceux d'aujourd'hui. Professeur agrégé à la faculté de médecine, doué d'une grande valeur professionnelle, il était un de ces rares praticiens qui, au lieu de se spécialiser dans telle ou telle maladie, considère qu'il est encore nécessaire et même très utile de se consacrer à la médecine générale. Il était depuis plusieurs années déjà le docteur de la famille Avrier et il était devenu leur ami. Il avait connu Martine toute petite et il s'était d'autant plus attaché à elle qu'il avait perdu une fille qui aurait aujourd'hui son âge. Antoinette s'avançait vers lui en disant « Ami, je vous suis infiniment reconnaissant d'être accouru aussi vite à mon appel. » Le docteur répliquait « J'allais quitter mon hôpital de Boulogne au moment où j'ai aperçu et où j'ai reçu votre coup de téléphone. Le temps de sauter dans mon auto et me voici. » S'approchant de Martine, il dit « Alors, c'est cette chère enfant qui ne va pas ?» Puis, apercevant tout à coup le pansement qui lui recouvrait une partie du front, il s'exclama « Blessé ?» Antoinette allait répliquer. Monsieur Avrier, l'arrêtant d'un geste affectueux mais énergique, expliqua au médecin « Ce que je vais vous dire, mon cher ami, est absolument confidentiel. Mais, pardonnez-moi, dans mon émotion, j'avais oublié de vous présenter le fiancé de ma fille. Monsieur le capitaine Alban de Montfermeil. Monsieur le docteur Ramenet. » Les deux hommes échangèrent un rapide salut. L'instant n'était pas aux grandes politesses. L'industriel reprenait. La nuit dernière, un homme, dont je ne puis vous dire le nom, s'est introduit dans l'appartement de ma fille et, après l'avoir bâillonné, ligoté et frappé au front d'un coup de crosse de revolver, s'apprêtait à la violenter lorsque cette pauvre enfant, en se débattant avec un courage admirable, a fait tomber le masque de ce bandit qui s'est enfui rapidement, croyant sans doute ne pas avoir été reconnu. Martine est tombée de son lit et s'est évanouie. Ce matin, sa mère et moi, nous avons dû enfoncer la porte pour pénétrer jusqu'à elle. Elle a repris presque aussitôt connaissance et, au prix de grands efforts, elle a pu raconter dans tous ses détails l'agression dont elle avait failli être la victime. Et comme elle était dans un état d'énervement extrême, j'ai pris sur moi de lui faire absorber un des cachets de Véronal que vous m'avez ordonné il y a quelque temps. Et elle s'est endormie paisiblement. Se tournant vers sa femme, Avrier ajouta « Maintenant, ma chère amie, raconte au docteur la suite de ce drame. » Antoinette reprit aussitôt Il y a environ 3 quarts d'heure, j'étais entré à pas de loup dans la chambre de ma fille qui reposait encore. Elle semblait même très calme. J'allais me retirer lorsque je la vis se redresser soudain sur un grand cri, agiter les bras comme si elle se défendait contre quelque ennemi imaginaire, puis retomber sur les oreillers en exhalant un soupir douloureux qui ressemblait à un râle mortel. Je me penchais vers elle, j'écoutais son souffle, elle respirait encore, mais elle était inerte, rigide, glacée comme un cadavre. J'ai voulu la ranimer, mais en vain, et vite je vous ai téléphoné. Je ne voulais encore rien dire à son père, que je savais être en conversation avec M. de Monthermé, car j'espérais toujours qu'elle rouvrirait les yeux. Mais j'eus bientôt l'impression qu'elle se refroidissait encore davantage. Alors, sans attendre votre arrivée, j'ai vite couru vers mon mari. Voilà tout ce que je sais, tout ce que je puis vous dire. Le docteur se taisait tout en regardant fixement la jeune fille, qui, blanche comme un lys, ressemblait à une jolie statue, telle qu'on en voit dans les églises, couchée sur des tombeaux. Monsieur Avrier demandait d'une voix tremblante: Vous ne croyez pas, docteur, que ce soit le cachet de Véronale? Monsieur Ramet hocha négativement la tête, puis il dit: Mon cher Avrier, vous, capitaine, je vous demande de vous retirer pendant que je vais procéder à un examen minutieux et détaillé de Martine. Vous ne croyez pas que cela soit grave? Interrogeait fiévreusement Alban. Non, je ne suppose pas, répliqua le praticien. Bien qu'il me soit encore assez difficile de me prononcer, tout ce que je puis vous affirmer a priori, c'est que cette chère petite n'est pas en danger de mort. Maintenant, allez, laissez-moi tranquille. Vous, madame, restez, mais vous seulement. Je sais que vous êtes une excellente infirmière et que nul mieux que vous ne saura me seconder. Monthermé et l'industriel passèrent dans le studio, dont ils refermèrent la porte. Un grand quart d'heure s'écoula, lourd d'incertitude et d'anxiété. Ils ne s'adressaient que de brèves et inutiles paroles, se raccrochant à l'assurance que venait de leur donner le docteur Ramey, à savoir que les jours de Martine n'étaient pas en péril. Néanmoins, ils se sentaient envahis, l'un comme l'autre, d'une inquiétude morbide, d'une impatience fébrile. Leurs épaules ployaient comme sous le poids d'un fardeau mystérieux, et il leur semblait que l'air qu'ils respiraient était imprégné de malheur. Enfin, la porte s'ouvrit. Le docteur Ramey apparut sur le seuil. Il semblait préoccupé, mais il n'avait pas cet aspect d'un homme qui, même avec de grands ménagements, s'apprête à vous annoncer une catastrophe. Mon cher ami, dit-il en s'adressant à Avrier, Martine, à la suite des événements de cette nuit, a subi un traumatisme nerveux dont elle supporte en ce moment les conséquences. Elle est atteinte de catalepsie. L'industriel et le capitaine eurent simultanément un mouvement d'effroi. Le docteur Ramey fit en souriant: Oh, oui, j'ai eu tort d'employer ce mot qui semble vous épouvanter à ce point, tous les deux. Car il y a catalepsie et catalepsie. La forme qu'affecte celle-ci n'est pas inquiétante. Mais je tiens à vous déclarer avant tout que mon premier diagnostic était bon et que Martine n'est nullement en danger. Cela dit, et non pas pour vous rassurer en vous trompant, mais parce que c'est au contraire ma conviction la plus absolue, je ne vous cacherai pas cependant que cet accident est le symptôme d'une affection nerveuse qu'il va falloir combattre avec beaucoup de soin et d'énergie. Je me rappelle toujours la parole de mon vieux maître Mazelier, qui chaque année commençait son cours en disant: Toutes les maladies sont guérissables à la condition d'être prises à temps. Aucune maladie n'est guérissable si elle est prise trop tard. Voilà pourquoi j'ai la certitude que la crise fâcheuse que traverse en ce moment ces deux chers enfants non seulement n'aura pas de conséquences graves, mais sera même de courte durée. Ainsi que je viens de le recommander tout à l'heure à sa mère, ce qu'il faut avant tout à cet enfant, c'est un grand repos moral et physique. Nous ne l'obtiendrons vraiment que lorsque nous aurons réussi à chasser de son cerveau le souvenir cauchemardant de ces deux nuits tragiques. Tout à l'heure, en rentrant chez moi, je vais téléphoner à mon grand ami, le professeur Sérillon, qui en matière de maladie nerveuse est certainement plus compétent qu'avant lui personne ne l'a jamais été. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je lui demanderai de venir ce soir après dîner voir votre fille avec moi. Je suis persuadé qu'il trouvera le moyen, beaucoup mieux que moi, d'apaiser vos anxiétés en hâtant la guérison de Martine. Mon cher ami, s'écria l'industriel, puisque vous le croyez utile, je serai très heureux et ne vois aucun obstacle à ce que votre confrère Cérion voie mon enfant. Et je vous remercie de tout mon cœur de la nouvelle preuve d'affection que vous me donnez en cette triste circonstance. Le capitaine de Monthermé reprenait. Permettez-moi, monsieur, de m'associer aux paroles de monsieur Avrier et de vous exprimer à mon tour toute ma vive gratitude. Le docteur Ramey leur serra la main à tous deux, puis il ajouta: Donc, à ce soir. En attendant, laissez-la tranquille, absolument tranquille. Si se produisait le moindre incident, ben, il ne se produira rien. Téléphonez-moi immédiatement. Vous êtes sûr de me trouver chez moi? Car c'est mon jour de consultation, et je vous le répète, à moins d'un accident imprévu, ben, il n'y en aura pas. Le cœur est en parfait état et c'est le principal. Il s'en fut, accompagné jusqu'à la porte par M. Avrier et le capitaine allemand de Monthermé. Lorsque le docteur fut parti, l'aviateur dit à son futur beau-père: Vous êtes bien sûr, n'est-ce pas, qu'il nous a dit toute la vérité? Oui, j'en suis sûr, répliqua Avrier. Oh, s'il me fallait la perdre, s'écria Alban. Mais se rendissant contre la douleur qu'il empoignait, il fit: Non, non, je ne peux pas croire une chose pareille. Pardonnez-moi, cher monsieur, de me laisser aller devant vous à un désespoir aussi injustifié. Mais je viens de vivre des instants si cruels, si effrayants même, que je n'ai pu me rester maître de moi. Vous ne m'en voulez point. Moi, vous en vouloir, mon cher enfant, répliquait l'industriel. Je puis au contraire qu'être profondément touché de l'amour si sincère que vous avez pour ma fille. Nous la sauverons, n'est-ce pas? Oui, nous la sauverons. En attendant, déclarait Alban, je ne dois pas oublier que j'ai un devoir sacré à remplir, celui d'aller demander des comptes au misérable qui est la cause de nos angoisses. Oui, allez, allez, mon cher ami, encourageait M. Florent Avrier. N'oubliez pas le conseil que je vous ai donné. Oui, du calme et de la prudence, c'est cela. Dès que vous aurez terminé votre audition, quelle qu'en soit l'issue et quelque tournure que prennent les événements, revenez vite près de moi et nous verrons alors ce que nous venons à faire. C'est promis, monsieur. Tous deux échangèrent une chaleureuse poignée de main. Et Monthermé regagna son auto, une torpedo carrossée sport, qui filait, quand cela était nécessaire, à une allure vertigineuse. Et maintenant, en mettant son moteur en marche, il murmura: Et maintenant, Jacques Morel, à nous deux! Chapitre 7. Les deux capitaines. L'usine de Monsieur Avrier s'élevait près de Sartrouville sur les bords de la Seine. Très importante, elle s'étendait sur une superficie de plusieurs hectares. Les bâtiments étaient neufs, l'outillage très moderne et remarquablement perfectionné. En plus de cela, l'industriel avait su créer, parmi le personnel technique, administratif et ouvrier qu'il employait et qu'il avait recruté avec le plus grand soin, un excellent esprit. Certes, il exigeait un grand rendement en même temps qu'une sévère discipline, mais il ne négligeait rien de ce qui pouvait améliorer la situation matérielle et morale de tous. Il avait établi un restaurant coopératif où l'on pouvait, moyennant des prix très modérés, déjeuner d'une façon saine et même variée, si bien que cela évitait aux ouvriers, aux uns comme aux autres, d'aller dépenser beaucoup d'argent au dehors pour y manger des aliments trop souvent de qualité inférieure et en quantité insuffisante. De plus, il avait intéressé tout le monde, aux plus petits et aux plus grands, aux bénéfices, et il n'y avait vraiment à être mécontent que ceux qui sont atteints d'un parti pris systématique ou d'un mauvais caractère. M. Avrier ne se montrait implacable que pour les paresseux et les ivrognes. Cela ne traînait pas longtemps chez lui. Quant à ceux qui faisaient leur devoir, il les considérait comme des collaborateurs, comme des amis, s'associant effectivement à leur joie comme à leur deuil de famille, bref, réalisant le type du bon patron, comme il en faudrait tant si l'on voulait résoudre réellement au profit de tous ce que l'on appelle la question sociale. Nous ajouterons que l'ordre et la propreté régnaient dans ces vastes établissements et que le coulage, le chapardage, l'inertie, bref, tous ces véritables vers rongeurs de l'industrie étaient complètement ignorés à l'usine de Sartrouville. Vers 1 heure de l'après-midi, le capitaine de Montremet franchissait sur sa torpedo le grand portail qui donnait accès à la cour d'entrée autour au front de laquelle s'élevaient les bâtiments administratifs. Un concierge s'avança vers le capitaine qui avait stoppé aussitôt. Il lui demanda fort poliment, en portant la main à sa casquette, « Vous désirez, mon capitaine ?» Montermet répliquait, « Je voudrais parler à monsieur le capitaine Jacques Moret. »« Ah, en ce moment, il doit être en train de déjeuner. Voulez-vous que je l'envoie chercher ?»« Non, inutile, répliquait Alban. Je vais me rendre près de lui. Je suis un de ses amis, le capitaine de Montermet. » « Je vous avais bien reconnu, » répliqua le portier. « Vous m'avez donc déjà rencontré, mon brave ?»« Non, mais j'ai vu votre portrait dans les journaux, et je sais que c'est vous qui commandez l'escadrille des hirondelles. Aussi, je n'ai pas besoin de vous dire, mon capitaine, que vous êtes ici comme chez vous. Si vous voulez garer votre auto, là, à droite, sous le hangar, c'est là que ces messieurs mettent toutes leurs voitures. » Et personne n'y touche jamais. C'est entendu, je vous remercie, reprenait Alban. Il remit son auto en marche et s'enfuit la placer dans le hangar qui abritait déjà plusieurs chignoles. Le concierge appelait Théodore. Un gamin de 12 ans sortit de la loge qui s'élevait près de la porte d'entrée et s'avança vers son père, qui fit en désignant Montermet en train de ranger soigneusement sa voiture. « Tu vois le capitaine qui est là-bas ?»«
Oui, papa. »«
Eh bien, conduis-le au restaurant des ingénieurs. »« Et tâche d'être gentil, car c'est encore un de celui-là. »« Un as, tu sais, celui-là. »« Je te souhaite un jour d'en être un pareil. » Le pauvre Théodore s'empressa de rejoindre M. de Montermet.
« Mon capitaine, » fit-il en soulevant sa casquette, « papa m'a dit de vous conduire jusqu'à la salle à manger des ingénieurs. »
Et un peu intimidé à la pensée qu'il allait servir de guide à un as dont les exploits lui apparaissaient, en son imagination enfantine, comme autant de promesses fabuleuses, il hasarda.
« Ça ne vous dérange pas, mon capitaine ?»«
Mais pas du tout, mon petit !» affirmait le fiancé de Martine, conquis d'emblée par la gentillesse du gamin.
« Alors, mon capitaine, si vous voulez me suivre ?»«
Je ne demande pas mieux. » Théodore fit traverser à l'aviateur la cour d'entrée. Après avoir contourné les bâtiments de l'administration, il pénétrait dans une seconde cour rectangulaire, plantée d'arbres et entourée de plusieurs petits pavillons,
composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, et dont les façades, coquettes et fleuries, rappelaient celles de ces charmants cottages que l'on remarque dans la campagne aux environs de Londres. Théodore se dirigea vers l'un d'eux et dit à l'officier « C'est là, mon capitaine !» Monterné glissa dans la main du petit bonhomme une pièce de 2 francs. Rougissant, Théodore chercha quelques paroles de remerciement. Il n'eut pas le temps de les prononcer. Une voix joyeuse s'élevait. « Ah, c'est vous, mon cher ami !» C'était Jacques Moret, qui, sortant du pavillon, venait presque de heurter Alban sur le point d'y pénétrer. « Mon cher camarade, attaquait aussitôt Monthermé d'un ton grave, j'ai absolument besoin de vous parler. » Surpris par cette attitude, Jacques s'écriait sur un ton de plaisanterie cordiale, « Seigneur, mais pourquoi cet air tragique ? Vous allez le savoir, » posait Alban avec fermeté. « Je ne comprends pas, » faisait le jeune aviateur, que l'attitude de son interlocuteur surprenait maintenant au plus haut point. Monthermé déclarait, « L'entretien que nous allons avoir étant strictement confidentiel, je vous prie de bien vouloir m'indiquer un endroit où nous pourrons parler sans courir le risque d'être entendus. » De plus en plus étonné, Jacques Moret reprenait en désignant le pavillon. Ben, entrons ici. Au premier étage, il y a une salle de repos où nous serons tranquilles. Vous permettez que je vous montre le chemin. Je vous en prie. Jacques pénétra le premier dans la maison. Montfermé lui empointa le pas. Ils gravirent un escalier et pénétrèrent dans une petite pièce formant un petit salon bibliothèque, simplement mais confortablement meublé. De grands fauteuils de cuir invitaient au délassement. Sur une table, les feuilles du jour s'étalaient, voisinantes avec des publications techniques. Dès que la porte se fut refermée sur eux, Monthermé, qui, ainsi que M. Lavrier, le lui avait si instamment recommandé, était bien décidé à conserver tout son sang-froid, entama. « Capitaine Moret, je vous demande de m'écouter avec tout le calme dont vous êtes capable et de me répondre ensuite avec toute la franchise que je suis en droit d'attendre de vous. Il s'agit en effet d'une affaire dans laquelle votre honneur est en jeu, que dis-je, en péril. » « Mon honneur en péril ? » sursentait l'heureux Rodelaire. « Mais que me dites-vous là, Monthermé ? Voyons, ce n'est pas possible. Vous me connaissez pourtant, vous savez bien que je suis incapable, je ne dirais pas d'une lâcheté, d'une félonie, mais d'une simple mauvaise action. » Et se rappelant tout à coup l'histoire de cette lettre anonyme adressée à sa maîtresse et qui avait provoqué entre les Avriers et lui une explication terminé si nettement à son avantage, il pensa tout haut, reprenant pour son compte l'expression imagée de l'industriel, « Oh oui, les crapauds ont encore bavé !» Et d'un ton méprisant, il poursuivit, « Avant tout, mon cher camarade, permettez-moi de vous déclarer que tout récemment, j'ai été l'objet de calomnies d'autant plus odieuses qu'elles étaient anonymes. » « Mais je suis au courant, » répliquait froidement le fiancé de Martine. Jacques Moret poursuivait avec force. « Oh, je me doute, oui, que la campagne continue, et que si vous n'avez demandé un entretien particulier, et si je vous ai, vois stupidement, aujourd'hui, un visage aussi préoccupé, je dirais même aussi sévère, c'est parce que vous avez à m'apprendre des choses qui ne sont pas faites pour m'être agréable. » Et mettre sans doute encore en jeu votre fiancé. » Tandis que le jeune aviateur parlait, son aîné se disait, « Oh, si je n'avais pas sous les yeux l'épreuve indiscutable de sa culpabilité, je me dirais qu'il ne peut pas avoir commis un tel crime, tant son attitude me paraît loyale et son langage sincère. »
Mais pourtant, les faits sont là, décisifs, écrasants. Alors il veut prendre les devants et déclencher son offensive avant la mienne. Donc, nous allons bien voir. Et toujours avec la même maîtrise de lui-même, Alban reprenait. « Capitaine, avant de vous défendre, je crois qu'il est utile que vous sachiez de quoi vous êtes accusé. « Mais parlez donc, invitait le jeune aviateur avec nervosité. Monterme déclarait aussitôt, « La nuit dernière, chez les Avriers, il s'est passé un événement aussi inouï qu'abominable. » Et tout en plongeant son regard dans celui de son interlocuteur, qu'il accepta et le soutint sans la moindre velléité de dérobade, le fiancé de Martine continua. Oui, un homme vêtu de noir, coiffé d'un casque d'aviateur et le visage recouvert d'un masque, s'est introduit vers 1 heure du matin dans la chambre de Mademoiselle Avrier, et après l'avoir bâillonné et brutalisé et a tenté de se livrer sur elle aux pires outrages. « Oh, quelle horreur !» s'écriait Jacques avec l'accent d'une indescriptible émotion. « Attendez !» coupait impérieusement Monthermé. Puis âprement, il martela. Pendant que Mademoiselle Avrier se débattait, le masque de cet homme s'est déclenché. Et saviez-vous qui Mademoiselle Avrier a reconnu dans son agresseur? Et comment voulez-vous, je le devine? Vous, précisait Alban. Moi? S'exclamait Jacques Morel, blême d'indignation. Moi, vous vous dites moi? Oui, vous. Mais il faut que Mademoiselle Avrier ait perdu la raison. Capitaine, ou qu'elle était l'objet d'une hallucination. J'ai moi-même soutenu cette dernière hypothèse, reconnaissait Monthermé. Et je m'y fus certainement arrêté d'une façon définitive et malheureusement pour vous. Vous avez laissé, rue de Renalague, deux preuves indiscutables de votre culpabilité. Comment, éclatait Moret, incapable de se contenir davantage. Comment vous, mon frère d'armes, vous, sous les ordres duquel j'ai appris à servir, vous qui m'avez toujours témoigné mieux que de la bienveillance, c'est-à-dire une amitié fraternelle, avez-vous pu un seul instant me croire capable d'un crime aussi exécrable? Alban répliquait. Cette conviction que j'ai dû me faire à mon corps défendant m'a causé la plus affreuse des déceptions et le plus violent chagrin de ma vie. Mais c'est effroyable, s'écriait Jacques Moret. Moi j'aurais. Mais pourquoi? Mais dans quel but? D'abord les preuves, quelles sont-elles? Oh, je veux les connaître tout de suite. Quelles qu'elles soient, je me charge de les anéantir. Bon, laissons de côté l'affirmation solennelle de Mademoiselle Avrier. Ainsi que je viens de vous le dire, si grande soit ma confiance dans sa sincérité, j'aurais très bien admis qu'elle eût été victime d'un phénomène de l'autosuggestion. Le cas est plus fréquent qu'on ne le pense. Mais cette fois, ce n'est plus un être humain, toujours sujet à l'erreur, qui vous accuse. Ce sont des objets inanimés. D'abord, votre montre-bracelet. « Ma montre-bracelet !» répétait Jacques Morel. « Oui, que l'on a trouvé dans le studio, qui communique directement avec la chambre de Mademoiselle Martine. » Puis une échelle de corde que M. Avrier avait fait fabriquer pour votre usage et qui vous a donné lorsque vous êtes parti pour votre raid de Paris-Buenos Aires. « Mais c'est insensé !» scandait Jacques Morel qui n'en croyait pas ses oreilles. « Cette échelle, poursuivait Monthermé, qui, fidèle à la promesse qu'il avait faite au père de sa fiancée, conservait tout son sang-froid. Cette échelle a été retrouvée dans le jardin de l'hôtel au pied du mur qui longe la rue du Ranelagh. « Et c'est tout ?» interrogeait le héros de l'air, tout en frémissant de colère. Oui, c'est tout, répondait Montfermet. Et avec une froideur redoutable, il ajouta: Oh, je crois que cela doit suffire. À vous peut-être, mais pas à moi. Et avec l'accent de la plus douloureuse des amertumes, il s'écria: Oh, Montfermet, faut-il que votre amour pour Mademoiselle Avrier vous aveugle, pour que vous me jugiez avec une aussi implacable férocité? Mais vous avouerez pourtant, ripostait Alban, que tout vous accable. Puis-je me défendre à présent? Interrogeait le jeune aviateur en redressant fièrement la tête. Je vous écoute, acceptait son interlocuteur. Dominant ses nerfs, Jacques Moret reprenait, sans emportement cette fois, mais avec la netteté et la lucidité d'un homme qui a l'habitude de faire face au danger et ne se laisse nullement intimider par l'approche et même l'imminence de la pire des catastrophes. Tout d'abord, il est impossible que j'aie pu me trouver la nuit dernière, vers 1 heure du matin, dans la chambre de Mademoiselle Avrier. J'accomplissais un vol de nuit sur une avionnette de la marque Le Héron. Je suis parti du Bourget à 22 heures, seul, puisque cet appareil ne peut contenir qu'un passager, et ayant Bordeaux pour objectif. Mon moteur s'est mis à bafouiller entre Orléans et Blois. J'ai dû atterrir au petit bonheur dans une vaste prairie qui s'étend au bord de la Loire et que fort heureusement éclairait la pleine lune. J'avais constaté que mes bougies étaient embrassées et que 2 étaient fendues. Je les ai changées, je suis reparti. Mais, constatant bientôt que mon moteur en marchait pas à plein rendement, j'ai préféré rentrer au Bourget, où je suis arrivé, ainsi que l'on peut le constater, à 2h24 du matin. Je crois que voilà un alibi indiscutable. Quant à ma montre bracelet, auparavant, interrompit Montfermet, je voudrais vous poser une question. Faites, ponctuait le jeune aviateur, car encore plus que vous, j'ai intérêt à ce que toute la lumière se fasse, et elle se fera. Avez-vous repéré exactement l'endroit où vous avez atterri? Oh, ma foi, non, répliquait Moret. J'avais à ce moment d'autres soucis en tête. Quelqu'un vous a-t-il vu? Avez-vous rencontré une personne qui pourrait en témoigner? Non, déclarait sans réticence le jeune aviateur. Le pays était absolument désert. À cet endroit, ainsi que vous le savez, la Loire n'est pas navigable. Je n'ai remarqué aux alentours aucune ferme ni aucun village. Voici donc un alibi qu'il sera bien difficile de contrôler, concluait Montfermet avec logique. Et pourquoi? S'étonnait Jacques Moret avec toutes les apparences d'une entière bonne foi. La réponse ne se fit pas attendre. S'il vous sera très aisé, raisonnait Alban, d'établir que vous êtes parti du camp d'aviation du Bourget la nuit dernière à 23 heures, et que vous y êtes revenu à 2h24, comment expliquez-vous l'emploi de votre temps? Comment prouverez-vous qu'à la suite d'une panne, vous avez dû descendre dans une prairie? Capitaine, s'écriait Jacques Moret, je n'aurais jamais cru que vous aviez tant d'aptitude pour les fonctions d'inquisiteur. Avec dignité et sans la moindre acrimonie, le fiancé de Martine reprenait. Non, vous avez tort de me juger ainsi. Vous m'aviez promis tout à l'heure que vous feriez justice de l'accusation que je porte contre vous, et je l'espérais ardemment, je vous le jure. Vous avez imaginé un alibi. Je vous fais observer qu'il n'est guère solide, mais c'est tout. Brisons-la. Non, non, protestait Morel. Je veux aller jusqu'au bout. Ces 2 objets que l'on a trouvés chez Monsieur Avrier, je puis à leur sujet vous donner tous les éclaircissements nécessaires. Et en rentrant du bal que les parents de votre fiancée avaient donné en mon honneur, j'ai constaté que ma montre bracelet avait disparu. Ne voulant pas faire de la peine à mon ami qui me l'avait offerte,
Je lui ai dit qu'un ressort s'étant brisé, je l'avais envoyé à réparer. Dès le lendemain, je me suis occupé d'en trouver une pareille. J'y suis parvenu et la voici. Quant à l'échelle de corde, je n'ai pas eu à m'en préoccuper parce que je n'avais pas voulu en faire usage. Si elle ne se trouve plus dans la carlingue de mon avion, c'est qu'elle m'a été volée. Voulez-vous que nous allions nous en assurer tout de suite? Soit. Ils s'enfuirent vers le hangar où était enfermé sous clé l'appareil qui avait servi à Moret pour son dernier raid. Il n'y avait encore personne dans le hangar. Jacques Moret invita Monthermé à monter avec lui à bord de l'appareil. Désignant un coffre qui adhérait à la paroi gauche de la coque, près du banc du pilote, Jacques fit « Elle doit être encore là !» Il ouvrit le coffre. Celui-ci était vide. « Vous voyez ?» faisait constater le jeune aviateur. « Quitte à ce que vous me traitiez encore d'inquisiteur, » déclarait Monthermé. « Puis-je vous demander si vous croyez qu'un pareil larcin peut être facilement accompli ?»« Très difficilement, au contraire, » répliquait Moret, avec une netteté qui parut impressionner favorablement son interlocuteur. Tous deux descendirent de la carlingue. Toujours avec le même accent de franchise, Moret continua. « Ce hangar, nuit et jour, est fermé, ainsi que vous le constatez, par une serrure de sûreté dont il n'existe que trois clés. L'une est entre mes mains, l'autre entre celles du mécanicien. Quant à la troisième, elle est déposée chez le concierge, qui a ordre de ne s'en saisir qu'en cas d'incendie. Mon mécanicien m'est dévoué jusqu'à la mort. J'ai éprouvé son attachement en plusieurs circonstances. » Pas un seul instant, il ne saurait être incriminé. Reste le concierge. C'est un ancien militaire, esclave de la consigne, un surveillant d'une conscience et d'un zèle tel qu'on en rencontre guère. Lui aussi est au-dessus de tout soupçon. Et en dehors de vous ne voyez personne? Non, non, personne. Monthermé faisait observer. Mais en défendant ainsi ce concierge et votre mécanicien, ne vous avertissez-vous pas que vous vous accusez vous-même? Jacques Moret s'écriait. Mais je ne puis cependant pas mentir et parler contre ma conscience. Et avec force, il ajouta. Je dis ce qui est et non pas autre chose. Je voudrais tant vous croire, s'écriait Monthermé. Cependant, je ne peux pas. « Vous ne pouvez pas, » répliquait le héros de l'air, « parce qu'en ce moment, vous êtes encore sous l'impression que vous ont causé les déclarations erronées de votre fiancé, et soi-disant la preuve de ma culpabilité. Pourquoi ne pas admettre la réalité de ce vol de nuit, de la panne qui m'a forcé à atterrir à regagner le Bourget? Pourquoi ne pas admettre également que cette montre-bracelet m'a été volée ainsi que cette échelle ? Par qui, je n'en sais rien encore, mais je vais chercher, et je trouverai. Car voyez-vous, de Monthermé, ainsi que je vous le disais au début de notre entretien, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est la conspiration ourdie contre M. Avrillé et moi-même qui continue. On veut nous abattre tous les deux, lui en le frappant dans ce qu'il a de plus cher, comme sa femme et sa fille, et moi, en faisant sombrer mon honneur dans la plus écœurante et la plus honteuse des aventures. Accusez-moi publiquement, si vous le voulez. Étalez donc au grand jour toute cette boue, toute cette ignominie. Je saurai me défendre et vous regretterez alors d'avoir un de vos camarades, un de vos compagnons d'armes capable d'un crime horrible dont la seule pensée me révolte autant qu'elle peut vous révolter vous-même. Mais les choses ne vont pas en rester là. Vous m'avez accusé d'homme à homme, face à face, seul à seul. Cela ne me suffit pas. J'exige qu'immédiatement vous vous rendiez auprès de mes supérieurs hiérarchiques et que vous les saisissiez d'une plainte contre moi. Alors on fera une enquête, vous citerez des témoins, j'appellerai les miens, vous fournirez des preuves et je répondrai par les miennes. Ce sera la lutte, la bataille au grand jour. J'en suis sûr, mon terme, et j'en sortirai vainqueur. Et vous aurez alors la douleur ineffaçable, non seulement de m'avoir accusé injustement, moi, un de vos camarades, mais d'avoir encore compromis peut-être le non-sentage de votre fiancée. Mais qu'osez-vous insinuer là? S'écriait Alban en perdant cette fois tout son calme. Je n'insinue rien, rectifia le jeune aviateur. Je considère au contraire que Mademoiselle Martine Avrier doit planer au-dessus de ce débat tragique. Et je ne puis que vous renouveler l'expression du profond respect que je lui porte. Mais vous connaissez le monde et sa méchanceté. Vous n'ignorez pas les jalousies sournoises et sans scrupules qu'ont suscité les succès de son père. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je vous disais que vous regretteriez d'être tombé dans le piège que lui ont tendu ses ennemis. Puisque si maintenant le scandale éclate, et cela est inévitable, tous ces gredins qui ont machiné dans l'ombre cette atroce comédie ne manqueront pas d'en faire subir les éclaboussures à celles qui représentent la plus grande part du bonheur de l'homme qui cherche à terrasser. Mais qui vous dit, reprenait Monthermé, que je veuille provoquer un scandale? Mon intention, en venant ici, était au contraire de traiter cette question dans le plus grand secret entre nous deux. Et je vous dis ceci, Moret, si vous êtes coupable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quoi donc? Ben, disparaître. Avec un grand cri d'indignation, Jacques répliquait. Et croyez-vous donc que j'eusse attendu ce conseil, si j'avais été le misérable que vous pensez? Me serais tué tout de suite, aussitôt que j'aurais repris conscience de mes actes. Car pour me rendre coupable d'un attentat aussi abominable, il eût fallu que je fusse devenu fou subitement. Et j'ai toute ma raison. Et appuyant ses deux mains sur les épaules de Monthermé, il lui dit en le fixant bien dans les yeux, je suis innocent, j'entendais innocent. Et comme Alban se taisait, Jacques Moret poursuivait. Voyons, mais réfléchissez à votre tour. Pourquoi me serais-je rendu coupable d'un pareil crime? Pourquoi? Alban de Monthermé observait. Mademoiselle Avrillé, vous aurez entendu dire, je viens me venger. Me venger de quoi? De qui? Alors vous adoptez la version des lettres anonymes, que c'est parce que je serais amoureux de Madame Avrillé et que, furieux de la voir m'échapper, j'ai cherché à déshonorer sa fille. Mais c'est absurde, cela ne tient pas debout. Au contraire, que dis-je, tout cela se tient admirablement. Ce n'est qu'un tissu de calomnie, en voulez-vous la preuve? Un soir, le lendemain du bal, j'ai reçu un coup de téléphone, soi-disant de Mademoiselle Avrillé, qui me défendait de poursuivre plus longtemps sa mère de mes prétendues assiduités, et me donnant rendez-vous pour le lendemain à l'entrée du Précatelan si je désirais recevoir de sa bouche des explications supplémentaires. Mais qu'ai-je fait? Dès le lendemain matin, je suis allé trouver M. Avrillé, et je l'ai mis au courant de cette démarche aussi extraordinaire qu'inattendue. Mademoiselle Avrillé a juré sur la tête de son père et de sa mère qu'elle ne m'avait pas téléphoné. Je l'ai cru, ainsi que vous devez bien le penser. Et maintenant, vous sentez-vous toujours aussi fort pour m'accuser? Monthermé, vous qui êtes l'honneur même, demandez-vous une dernière fois si vraiment une chose pareille est possible. Quand on vient de risquer sa vie et qu'on la risque tous les jours comme je le fais, quand on est prêt à la risquer encore, et mieux que tout autre, vous savez ce que c'est, on ne se dégrade pas, on ne s'abaisse pas, on ne s'avilit pas à un tel point. Et quand bien même, ce qui n'est pas, Aurais-je été emporté par une passion coupable vers la femme de mon bienfaiteur? Uniquement par dépit amoureux, aurais-je fait ce que vous dites? Non, non. Non, vous ne le croyez plus maintenant, je le lis dans vos yeux, qui, comme les miens, sont prêts à se mouiller de larmes. Déjà, mon ami, vous regrettez d'avoir douté de ma sincérité, parce que bien mieux que les arguments que je vous ai donnés et que j'ai opposés à vos preuves faussement décisives, mais vous avez lu dans mon cœur, vous avez pénétré dans mon âme, et reconnaissant votre erreur, vous n'attendez plus que le moment où je vais vous tendre la main pour me la serrer avec toute l'expression de notre amitié reconquise. Eh bien oui, vous avez raison, s'écriait Monthermé au comble de l'émotion. Il ne me reste plus, mon cher camarade, qu'à vous demander pardon de vous avoir ainsi offensé. Je vous pardonne, mon cher Alban, déclarait noblement le jeune aviateur. D'autant plus facilement et sincèrement qu'à votre place, moi aussi, j'eus sans doute agi comme vous venez de le faire. Je sais que vous aimez Mademoiselle Martine Avillé d'un amour admirable et qui ne sait pouvoir supporter aucune atteinte. Je comprends donc très bien qu'ayant appris tout ce que vous venez de me dire, vous soyez accouru ici. Et cela m'a été très bien de votre part d'avoir tenu à avoir avant tout avec moi une entrevue confidentielle. Dans cette affaire, après avoir vu en moi un ennemi, et quel ennemi, il faut que vous vous considériez comme un allié. Il faut que nous fassions bloc contre l'ennemi commun qui nous guette et cherche à nous frapper tout dans l'ombre, vous maintenant aussi bien que les autres. Soit, acquiesçait Monthermé, mais que faire? Avez-vous une idée, un plan? Laissez-moi réfléchir. Voulez-vous me donner jusqu'à demain matin, 9 heures? J'ai besoin de ce temps pour remettre en ordre toutes mes idées. Si vous y consentez, je me rendrai chez vous et nous aurons une conversation au cours de laquelle nous pourrons établir les bases d'un plan de la campagne que nous aurons à mener contre un ennemi inconnu, donc invisible. Maintenant, laissez-moi vous poser une dernière question. Parlez, je vous en prie. Monsieur Avrier, naturellement, croit à ma culpabilité. Quand je l'ai quitté ce matin, déclarait Monthermé, il en était persuadé. Eh bien, mon cher ami, je viens vous demander de bien vouloir faire tous vos efforts pour l'amener à partager votre conviction en mon innocence. Et c'est ce que je me proposais de faire immédiatement, déclarait Alban. Merci. Je n'en attendais pas moins de votre loyauté. Spontanément, les mains des deux aviateurs se tendirent l'une vers l'autre, puis ils s'étreignirent longuement. Monthermé, maintenant, en était sûr. Jacques Moret était innocent.